On longea une corderie, ensuite une rangée de maisons basses. Il y avait, en dessous, des marmites de goudron, des éclats de bois, et des gamins couraient sur le sable, en faisant la roue. Frédéric reconnut un homme avec un gilet à manches et lui cria « Dépêche-toi !» On arrivait. Il chercha péniblement Arnoux dans la foule des passagers, et l'autre répondit en lui serrant la main « Au plaisir, cher monsieur !» Quand il fut sur le quai, Frédéric se retourna. Elle était près du gouvernail, debout. Il lui envoya un regard où il avait tâché de mettre toute son âme. Comme s'il n'eût rien fait, elle demeura immobile. Puis, sans égard aux salutations de son domestique, « Pourquoi n'as-tu pas amené la voiture jusqu'ici ?» Le bonhomme s'excusait. « Quel maladroit, donne-moi de l'argent !» Et il alla manger dans une auberge. Un quart d'heure après, il eut envie d'entrer comme par hasard dans la cour des diligences. Il la verrait encore, peut-être. « À quoi bon ?» se dit-il. Et l'Américaine l'emporta. Les deux chevaux n'appartenaient pas à sa mère. Elle avait emprunté celui de M. Chambrion, le receveur, pour l'atteler auprès du sien. Isidore, parti la veille, s'était reposé à Bray jusqu'au soir et avait couché à Montereau, si bien que les bêtes rafraîchies trottaient lestement. Des champs moissonnés se prolongeaient à n'en plus finir. Deux lignes d'arbres bordaient la route, les tas de cailloux se succédaient, et peu à peu, Villeneuve-Saint-Georges, Ablon, Châtillon, Corbeil et les autres pays, tout son voyage lui revint à la mémoire, d'une façon si nette, qu'il distinguait maintenant des détails nouveaux, des particularités plus intimes. Sous le dernier volant de sa robe, son pied passait dans une mince bottine en soie, de couleur marron. La tente de Coutil formait un large dais sur sa tête, et les petits glands rouges de la bordure tremblaient à la brise, perpétuellement. Elle ressemblait aux femmes des livres romantiques. Il n'aurait voulu rien ajouter, rien retrancher à sa personne. L'univers venait tout à coup de s'élargir. Elle était le point lumineux où l'ensemble des choses convergeait. Et bercé par le mouvement de la voiture, les paupières à demi closes, le regard dans les nuages, il s'abandonnait à une joie rêveuse et infinie. À Bray, il n'attendit pas qu'on eût donné l'avoine, il alla devant, sur la route, tout seul. Arnoux l'avait appelé « Marie ». Il cria très haut « Marie !» Sa voix se perdit dans l'air. Une large couleur de pourpre enflammait le ciel à l'occident. De grosses meules de blé, qui se levaient au milieu des chaumes, projetaient des ombres géantes. Un chien se mit à aboyer dans une ferme, au loin. Il frissonna, pris d'une inquiétude sans cause. Quand Isidore l'eut rejoint, il se plaça sur le siège pour conduire. Sa défaillance était passée. Il était bien résolu à s'introduire, n'importe comment, chez les Arnoux et à se lier avec eux. Leur maison devait être amusante. Arnoux lui plaisait d'ailleurs. Puis, qui sait? Alors un flot de sang lui monta au visage, ses tempes bourdonnaient. Il fit claquer son fouet, secoua les rênes, et il menait les chevaux tel train que le vieux cocher répétait « Doucement, doucement, vous les rendrez poussifs !» Peu à peu, Frédéric se calma et il écouta parler son domestique. On attendait monsieur avec grande impatience. Mademoiselle Louise avait pleuré pour partir dans la voiture. « Qu'est-ce donc, mademoiselle Louise ?»« La petite à monsieur Roque, vous savez. » « Ah, j'oubliais, » répliqua Frédéric négligemment. Cependant, les deux chevaux n'en pouvaient plus. Ils boitaient l'un et l'autre, et 9 heures sonnaient à Saint-Laurent lorsqu'il arriva sur la place d'armes, devant la maison de sa mère. Cette maison, spacieuse, avec un jardin donnant sur la campagne, ajoutait à la considération de Madame Moreau, qui était la personne du pays la plus respectée. Elle sortait d'une vieille famille de gentilshommes, éteinte maintenant. Son mari, un plébéien que ses parents lui avaient fait épouser, était mort d'un coup d'épée pendant sa grossesse, en lui laissant une fortune compromise. Elle recevait 3 fois la semaine et donnait de temps à autre un beau dîner. Mais le nombre des bougies était calculé d'avance, et elle attendait impatiemment ses fermages. Cette gêne, dissimulée comme un vice, la rendait sérieuse. Cependant, sa vertu s'exerçait sans étalage de pruderie, sans aigreur. Ses moindres charités semblaient de grandes aumônes. On la consultait sur le choix des domestiques, l'éducation des jeunes filles, l'art des confitures, et Monseigneur descendait chez elle dans ses tournées épiscopales. Madame Moreau nourrissait une haute ambition pour son fils. Elle n'aimait pas à entendre blâmer le gouvernement par une sorte de prudence anticipée. Il aurait besoin de protection d'abord, puis, grâce à ses moyens, il deviendrait conseiller d'État, ambassadeur, ministre. Ses triomphes au collège de Sens légitimaient cet orgueil. Il avait remporté le prix d'honneur. Quand il entra dans le salon, tous se levèrent à grand bruit, on l'embrassa. Et avec les fauteuils et les chaises, on fit un large demi-cercle autour de la cheminée. M. Gamblin lui demanda immédiatement son opinion sur Mme Lafargelle. Ce procès, la fureur de l'époque, ne manqua pas d'amener une discussion violente. Mme Moreau l'arrêta, au regret toutefois de M. Gamblin. Il la jugeait utile pour le jeune homme, en sa qualité de futur jurisconsulte, et il sortit du salon, piqué. Rien ne devait surprendre dans un ami du père Roch. À propos du père Roch, on parlait de M. d'Ambreuse, qui venait d'acquérir le domaine de la Fortelle. Mais le percepteur avait entraîné Frédéric à l'écart pour savoir ce qu'il pensait du dernier ouvrage de M. Guizot. Tous désiraient connaître ses affaires, et Mme Benoît s'y prit adroitement en s'informant de son oncle. Comment allait ce bon parent? Il ne donnait plus de ses nouvelles. N'avait-il pas un arrière-cousin en Amérique? La cuisinière annonça que le potage de monsieur était servi. On se retira par discrétion. Puis, dès qu'ils furent seuls dans la salle, sa mère lui dit à voix basse « Eh bien ?» Le vieillard l'avait reçu très cordialement, mais sans montrer ses intentions. Madame Moreau soupira. « Où est-elle à présent » songeait-il. La diligence roulait, et enveloppée dans le châle sans doute, elle appuyait contre le drap du coupé sa belle tête endormie. Ils montaient dans leur chambre quand un garçon du signe de la croix apportait un billet. « Qu'est-ce donc ?»« C'est des lauriers qui a besoin de moi, » dit-il. « Ah, ton camarade !» fit Madame Moreau avec un ricanement de mépris. « L'heure est bien choisie, vraiment !» Frédéric hésitait, mais l'amitié fut plus forte. Il prit son chapeau. « Au moins, ne sois pas longtemps !» lui dit sa mère.
Chapitre deuxième. Le père de Charles Deslauriers, ancien capitaine de ligne, démissionnaire en 1818, était revenu se marier à Nogent. Et avec l'argent de la dot, avait acheté une charge d'huissier, suffisante à peine pour le faire vivre. Aigri par de longues injustices, souffrant de ses vieilles blessures, et toujours regrettant l'empereur, il dégorgeait sur son entourage les colères qui l'étouffaient. Peu d'enfants furent plus battus que son fils. Le gamin ne cédait pas.